Bonjour, vous écoutez Les Mots d'Azur ou la poésie en direct. Une émission réalisée, animée par Béatrice Maché. Mon invitée est Corinne Lelévrier, qui nous vient de Bretagne et que j'ai rencontrée dans le Var lors d'une semaine de vacances qu'elle s'octroyait. Mais avant toute chose, voici les informations qui concernent les activités de l'association Les Mots d'Azur. Retenez bien la date du 29 novembre, c'est un vendredi, et c'est à 19h au château de Mont-Sartoux. Vous pourrez écouter la poétesse hiéroise Albertine Benedetto. Sa lecture sera suivie par la scène ouverte, puis par la prestation au chant lyrique par Pauline Sicot, qui terminera la soirée. Corinne Lelévrier, bonjour. Si vous deviez vous présenter vous-même, que diriez-vous à nos auditeurs ?
Alors, se présenter. Je vis dans le Finistère. J'ai quitté le Finistère, j'y suis revenue. Il y a peu de temps, j'écris. Depuis longtemps, ça prend une autre tournure. Depuis 6 ans, où je me suis organisée dans ma vie pour y consacrer pas mal de mon temps, parce que c'était nécessaire. Alors, plusieurs manières d'écrire. Alors, écrire des textes, c'est... je suis obligée de constater que j'écris de la prose. Je suis prosaïste. J'ai testé différentes petites choses, mais c'est la prose qui me... C'est la prose qui devient, en tout cas pour l'instant, c'est le format adapté, le format que j'ai adopté. Alors une prose, on pourrait dire narrative, c'est-à-dire qui vise à raconter quelque chose.
Prose narrative, mais poétique quand même.
Mais poétique quand même, oui, parce que la langue, je cherche une langue qui serait pas tout à fait la langue que j'ai lorsque je parle. Donc une prose, les unités, l'unité de la prose, c'est le fragment. Quelque chose d'assez fragmenté. Alors, ce fragment, ça peut être un espèce de bloc, mais ça peut être un bandeau, ça peut être une ligne, ça peut être un blanc. Et c'est dans cette suite, dans ces arrangements, et la question de l'arrangement entre les fragments, ça c'est quelque chose, une question qui me taraude dans mon écriture. Donc, j'ai mis l'hypothèse que l'ensemble de ces fragments produisent une continuité. Donc il y a cette dialectique que je travaille, c'est sûr, entre l'isolement du fragment et puis la narration. Et puis cette utopie, cette hypothèse tout de même qu'un continu se vit, s'écrit et peut se lire aussi.
Alors maintenant, bon, ça c'est l'aspect Corinne Lelévrier, auteur. Il n'y a pas que Corinne Lelévrier, auteur, même si nous sommes dans une émission de radio consacrée à la poésie. Il y a aussi des influences, il y a aussi des études poursuivies, il y a aussi des orientations de vie. Vous pouvez nous en dire quand même 2 mots.
L'écriture a certainement démarré. Être quelqu'un qui écrit, ça a pris un certain temps dans ma vie. Parce qu'il s'agit quand même de conditions à mettre en œuvre. Il est question aussi d'autorisation. Le contexte n'est pas toujours, ne facilite pas forcément l'identification à quelqu'un qui écrit, qui est légitime pour écrire. Donc, je dirais qu'il y a eu pas mal d'expériences avant, de travail, d'études, mais je dirais que tout cela a participé à ce que aujourd'hui je puisse écrire. Donc travail, oui, moi j'ai eu ma première fille à 19 ans, j'ai eu 3 enfants. Travailler pour la vie. Je ne pouvais pas consacrer du temps à l'écriture, mais il y avait de la lecture, il y avait une appétence, un appétit fort pour les phrases. Donc prélever des phrases, s'en souvenir, quelquefois même on voudrait ne pas s'en souvenir. Un intérêt vraiment pour le langage, et puis peut-être une espèce de, pas de traumatisme, mais tout de même la question de la langue parlée, mais certainement que ça vient de mon enfance, ça vient de ma vie assez rapidement. La question de la parole. Je dis quelquefois que j'écris contre le tout venant de la parole. que tout ne vienne pas de la parole. La parole qui vient trop facilement, c'est quelque chose qui... La mienne, hein, autant que celle des autres, ce n'est pas le format, je trouve, qui peut apaiser. Donc l'écriture viendrait en quelque sorte proposer autre chose que la parole. Et paradoxalement, dans, par exemple, un projet sur lequel je travaille en ce moment, où il s'agit de continuer cette écriture en fragments, mais je pars d'un protocole qui est que ce n'est pas un texte écrit, c'est un texte parlé en fait, qui est parlé la nuit dans mon lit avant que la nuit ne tombe. Je parle à mon dictaphone. Donc il y a bien cette chose qui se travaille entre la parole et l'écriture.
Donc vous travaillez avec quand même en arrière-pensée un rendu oral. Vous écrivez quand même pour la lecture, pour le partage, pour la voix.
Alors, j'écris pas pour un rendu qui serait parlé, parce que voilà, écrire un livre, c'est quand même quelque chose d'écrit. Donc, je reviens tout de même sur ces fragments qui sont écrits. Je dirais que ça dépend des textes. Après, la question du sonore, c'est encore autre chose. La question du sonore, d'ailleurs, elle est beaucoup plus récente pour moi. J'aime lire mes textes, ça prend là une autre tournure depuis une petite année, notamment depuis que j'ai rencontré Écrit Studio, avec ce prolongement, cette extension que je trouve vraiment joyeuse, à partir de courts textes, les mettre en oralité. Et c'est une autre oralité en fait que le parler qui aurait pu générer le texte. C'est une oralité qui vient après coup, qui vient avec le corps, comment le corps peut ressaisir ce qui a été écrit. Et puis, il y a tout ce travail aussi d'associer éventuellement du son, de la musique. Tout ça, ce sont des manières différentes d'écrire. Et je trouve intéressant justement de... Comme l'écriture, c'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps, on est très seul. Et ce sont des poches de respiration pour moi de pouvoir, eh bien, par exemple, créer des pièces sonores ou enregistrer quelque chose avec des musiciens. Ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi. Là, depuis une petite année, je suis quelqu'un qui aime voyager. Et j'emmène avec moi mon enregistreur. Et à l'occasion, comme ça, d'une rencontre, parce qu'il y a beaucoup d'artistes sur la planète, on rencontre des gens qui jouent de la musique, et cette idée de leur proposer, avec les moyens du bord, dans le lieu où on est et avec les conditions en présence, de pouvoir, voilà, on se fait une improvisation, j'ai écrit un court texte, il y a une composition musicale qui se fait comme ça, à l'improviste, dans la rencontre. Et donc j'ai créé, là, cette année, j'ai créé trois pièces sonores qui ont été... qui proviennent de ce dispositif-là. Et je compte bien continuer.
Merci pour ces explications, Corinne. Un fragment, donc. Et si maintenant, vous nous en lisiez un de ces pavés de prose dont vous avez le secret?
Un extrait de « La femme et le jeu » publié en 2012 aux éditions Raphaël de Surtis. Petite, au centre de son jupon fleuri, elle serait assise sur une très grande chaise, si bien que ses pieds ne pourraient atteindre ni le sol, ni le livre posé sur le sol.
Alors c'est un très court extrait, mais on entend déjà ici une forte identification au sort de toutes les petites filles et femmes. On entend aussi un non-lieu pour ces femmes en devenir, qui n'ont rien à poser sous leurs pieds afin d'avancer dans la réalité construite par les hommes. Êtes-vous féministe, Corinne, et comment appréhendez-vous ce mouvement féministe? Et je précise qu'il ne s'agit en rien dans cette émission de faire le procès du masculin, mais bien plutôt de trouver en poésie et par l'écriture, par une prise de conscience, comment faire évoluer les choses dans une démarche aussi de guérison.
Alors, la question, ce serait, mon écriture est-elle féministe ou ne l'est-elle pas ou... quel est le lien peut-être entre l'écriture et l'idée de femme, de fille, de féministe? Alors fille, c'est déjà un mot... Je pense que fille est un mot qui traverse pas mal de mes écrits en fait. Parce que je suis toujours une petite fille, et je suis aussi une vieille femme. tous les âges, je les éprouve, enfin tous. Je dis souvent qu'on a tous les âges. C'est quelque chose que je veux continuer à m'autoriser. Comme je disais tout à l'heure, écrire, c'est aussi s'autoriser. Il a fallu passer un certain nombre de frontières. Et puis dans les rencontres aussi, ce sont aussi les rencontres qui m'ont permis de m'autoriser. Dans les rencontres, il y a eu des femmes. C'est vrai que j'écris d'ailleurs un texte qui s'appelle Contes de femmes. Dans le sens de comptabiliser. Donc à un moment donné, j'ai comptabilisé toutes ces femmes qui ont été un miroir et qui m'ont permis de me dire que voilà, je pouvais écrire.
Donc c'est quand même là un témoignage d'une forme de condition féminine.
Oui, ouais. Oui. Voilà. Bien sûr, comme je disais, j'ai rencontré des hommes, il y a eu des vies avec des hommes. Ou alors j'ai filtré, je ne sais pas, mais en tout cas, des rencontres qui ont été vraiment déterminantes, quelquefois sur des périodes de rencontres qui ont été très très courtes. Ça peut être un moment passé avec une femme qui n'a pas, qui a été très court, mais qui a produit des effets considérables de prise de conscience de soi, d'assurance de soi. Voilà, du coup, je pense au mot sororité que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que je trouve d'ailleurs très très beau. Bon, j'ai pas fait de recherche supplémentaire sur ce mot-là. Oui, je pense que les femmes, dans ce contexte quand même qui est quand même largement bâti, maintenu, tramé par les hommes, je pense que les femmes cherchent des liens entre elles. Et ces liens sont précieux. Et ils sont difficiles à mettre en... Ils sont difficiles à mettre en place. Il y a quand même... un certain nombre de barrages du fait que les organisations soient majoritairement masculines, ou alors portées aussi par des femmes qui sont devenues en quelque sorte des hommes, c'est-à-dire que pour réussir, pour être intégrées, englobées dans ce monde, quelque part, moi il me semble que certaines se sont écartées de ce que peut-être c'est être une femme. Après la question, qu'est-ce que être une femme ? Aujourd'hui, à notre époque, bon, ça interroge aussi les hommes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'être un homme, puisque nous, on les fait un peu bouger. Donc, on dit souvent, les hommes en ce moment, ils comprennent plus les femmes, ils sont perdus. Du coup, on est perdus ensemble. On va trouver ensemble ou pas ensemble.
J'aimerais beaucoup, à ce stade de l'émission, que vous nous lisiez un autre extrait, Corinne, si vous le voulez bien. Cet extrait où vous expliquez d'où vous venez.
Je viens de la langue, de celles qui sont nées dans une botte de foin une nuit et ne se sont pas réveillées dans un carré de mur à l'aube. Et je remplis notre panier de mouchoirs de mots. Je suis faite de la langue, de celles qui ignorent ce que leur mère aurait tant aimé qu'elles réalisent ensemble. Donc c'est un court extrait d'un texte publié aux éditions Asphodel en 2013, « Langue, je viens ».
Dans ce court extrait, ici encore, la condition féminine me semble évoquée, et ici encore, cette impression qu'il n'y a pas de place pour les femmes et les petites filles où s'épanouir ou réaliser ensemble. Et la question qui vient après la lecture et ce commentaire de ce court extrait, c'est : est-ce bien une langue ou bien une non-langue que vous évoquez ici ? Car quand j'écoute vos mots, j'entends la force du non-dit. La force du conditionnement qui fait qu'on a confisqué la parole aux femmes ou bien qu'elles ne se reconnaissent pas dans le langage convenu et accepté ou acceptable qui ne prend pas en compte ni leurs désirs ni leurs aspirations dont elles doivent se soumettre et rester au service d'une société patriarcale.
Alors, langue, non-langue, il y a des non-langues aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des... Depuis un certain nombre d'années, bon, on le sait bien, on est dans un contexte où la langue est manipulée, transformée à des fins de manipulation, puisque la langue, c'est comme un outil très très fort d'acculturation des peuples, etc. Et on vit aussi dans nos démocraties aujourd'hui, on vit aussi ce phénomène. Alors, vouloir redonner aux mots ce qui leur revient, c'est-à-dire le sens qu'ils ont, parce que, comme je disais tout à l'heure... les mots sont des agissements, c'est pas de moi, c'est de Leslie Kaplan. D'une manière globale, collectivement, qu'il y ait une langue qui soit précise, qui veille au respect des uns et des autres, ça c'est une chose. Après, quand on écrit et qu'on est poète, il y a autre chose une autre strate qui vient se rajouter. Oui, bah c'est de trouver sa propre langue dans ces ensembles de langages qui nous environnent, c'est trouver sa propre langue. Langue non dite, ça c'est clair. Moi, le rapport que j'ai eu, on parlait des filles, des mères, etc. Le fait d'écrire, pour moi, et la problématique que j'évoquais au début d'une espèce d'hypersensibilité au langage, c'est que je n'ai pas eu l'impression de pouvoir entendre ma mère. Je ne sais pas si ma mère parlait. Bien sûr, elle parlait. Mais cette langue qu'elle parlait, je ne la comprenais pas. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. Je ne suis pas certaine du tout qu'elle parvenait à dire ce qu'elle avait à lui dire dans sa langue. Donc ça a provoqué, oui, une espèce de non-langue ou de manque de langue ou de non-dit. Et à l'opposé, moi, je crois que je travaille la langue pour la faire advenir, pour faire advenir ce que peut-être ma mère n'a pas dit aussi. Hein. On ne prend jamais la place de l'autre, mais il y a ce heurt quand même entre les mamans, les petites filles, etc. Donc peut-être, oui, ce que j'écris, c'est aussi écrire quelque part, pas à sa place, mais même dans des trous que je laisse dans certains textes, hein, moi, je sais que c'est la place que je lui laisse à elle et qu'elle n'avait pas. Qu'elle n'a pas pu prendre. Pour illustrer aussi, je suis en train... j'ai commencé un texte, ça fait maintenant une vingtaine d'années. Alors, j'y travaille bien sûr pas tous les jours, mais épisodiquement, par période. Une parole à ma mère, ça fait une vingtaine d'années que ça dure. C'est quelque chose qui est éprouvant, parce que j'ai peur de me tromper. Et ce texte, peut-être que je suis en train de le terminer là en ce moment, et j'espère. Là, je l'ai proposé à des éditeurs. Alors c'était un espèce d'amas, il y avait beaucoup de choses, parce que du coup, pour m'adresser, j'avais multiplié les manières, les registres d'écrire. Il y avait des parties qui étaient plus en roman, des choses qui étaient plus en vers, d'autres des fragments, des formes aussi dans l'espace qui essayaient de rendre compte de l'hétérogénéité de ma pensée pour elle, de ce que c'est être une fille, qu'est-ce que c'est être une mère. Cette masse, à un moment donné, en parlant avec un homme, d'ailleurs, j'espère qu'il aura été de bons conseils, mais je pense, m'a invité vraiment à enlever beaucoup, beaucoup de choses. Enlever beaucoup de choses. Et je pense que là, je me dis, ce texte, il ne bougera plus. Même moi, je ne suis plus capable de le faire changer. Je pense vraiment que la parole est stabilisée et qu'elle est belle.
Mais alors, c'est la parole que vous mettez dans la bouche de votre mère? Ou c'est la parole que vous auriez voulu entendre venir de votre mère? Ou c'est ce que vous adressez, vous, Corinne, à votre mère? Est-ce que c'est un peu tout ça? Est-ce que ça reconstitue le puzzle qu'était votre mère? Est-ce que... Enfin, bon...
Je pense qu'il y a un peu de tout ça. C'est-à-dire que à la fois, ça raconte une histoire, l'histoire d'un lien... Ma prise de parole et mon écriture, ça vient parler aussi du non-parlé de ma mère. Mais c'est vrai, mais je n'essaye de pas me mettre à sa place. D'ailleurs, le titre s'appelle Sa place au soleil. Mais j'ai forcément, il y a des échos, il y a des allers-retours entre la position, la situation de fille, la situation de mère. D'ailleurs, je finis ce texte-là, et c'est venu sans intention, pour finir ce texte, en fait, je m'adresse à une de mes filles. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui tourne. Fille, mère, fille...
Et petite fille, là, du coup.
Et petite fille, voilà. On en revient à la petite fille avec le livre posé, avec les pieds qui ne touchent pas le sol, là, qui est en train de balancer ses pieds.
Merci, Corinne. C'est l'heure à présent des informations. Et donc, je vais laisser l'antenne aux journalistes. Mais nous nous retrouvons dans 10 minutes pour la deuxième partie de cette émission avec, toujours, Corinne Lelévrier. Ne quittez donc pas l'antenne, chers auditeurs. À tout de suite.